Les informés de France Info, bonsoir les informés, 7 jours sur 7, à la radio, à la télévision, sur le canal 27 de la TNT, sur franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux pour débattre de l'actualité politique, mais pas que, parce qu'il y a aussi des sujets de société, de la culture, du sport. Nous accueillons ce soir une voix de l'Outre-mer, ancien journaliste à RFO, ancien directeur des antennes de France, aujourd'hui président du site d'information Outre-mer, au pluriel, Outre-mer 360. Bonsoir Luc Laventure.
Bonsoir.
Heureux de vous accueillir.
Très
à vos côtés,
d'être ici à nouveau.
Le rédacteur en chef du site reporter.net. Alors reporter, T-E-2-R-E.net, le quotidien de l'écologie. Bonsoir Hervé Kempf.
Bonsoir.
Nous sommes heureux également d'accueillir le président de l'Institut de la Parole.com, ancien magistrat, écrivain, blogueur. Bonsoir Philippe Bilger.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Et puis, à vos côtés, le directeur de la rédaction du site Contrepoint, au pluriel, contrepoint.org, un site qui accueille les contributions de nombreux journalistes, écrivains, économistes, blogueurs. Ludovic Delory, bonsoir, soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors au sommaire de ces informés, une délicate rentrée d'Emmanuel Macron après le départ fracassant de Nicolas Hulot, l'attente du remaniement, la valse hésitation sur le prélèvement des impôts à la source, les déclarations sur les Gaulois réfractaires aux réformes. Il y a maintenant Stéphane Bern et sa mission en péril, l'animateur qui lance un ultimatum. Dans ces informés de France Info, on reviendra également sur les vacances de François Hollande. Des vacances qui n'en sont pas, entre les dédicaces de son livre Les leçons du pouvoir et ses commentaires sur la vie politique. Finalement, l'ancien président est toujours dans le jeu. Et puis, dans ces informés de France Info, on parlera le plus souvent possible de l'outre-mer. D'ailleurs, dans 2 mois, le 4 novembre prochain, les Néo-Calédoniens se prononceront par référendum sur l'indépendance, enjeux politiques, mais aussi enjeux économiques et environnementaux. On en parlera dans ses informés du week-end. Allez, on ouvre le premier débat de ses informés avec des images en noir et blanc, tout droit venues de l'ORTF et des archives de l'INA, une émission des années 60-70 qui informe les téléspectateurs sur les richesses de notre patrimoine. Les églises, les châteaux, les villages, un patrimoine en péril, c'est le titre de cette émission créée, présentée par Pierre Delagarde, le papa de notre ami et collègue sur France Info, Olivier Delagarde.
Trois. Ces églises si belles du 15e et du 16e siècle, Sainte-Madeleine, Saint-Nicolas, Saint-Nizier, Saint-Jean, sont en cours de restauration. Mais est-il suffisant de sauver ces églises ? Est-il même logique de dépenser des millions pour leur restauration ?
Voilà, ces chefs-d'œuvre en péril. C'était une émission réputée sur les antennes de l'ORTF, présentée par Pierre Delagarde. Alors, si je vous propose ce retour sur le passé, c'est parce que notre patrimoine est toujours en péril. L'animateur Stéphane Bern a été chargé d'une émission, a été chargé d'une mission sur le patrimoine. Il a identifié, sélectionné les bâtiments, les édifices qui ont besoin d'une aide financière. Une aide via un jeu de grattage qui sera lancé lundi, mais aussi un loto du patrimoine. Il espère récupérer entre 15 et 20 millions d'euros. Et coup de théâtre, Stéphane Bern explique sur France Info que l'on ne l'aime pas et que si rien ne change, eh bien, il pourrait quitter sa mission qui n'est qu'un cache-misère. On l'écoute.
C'est un avertissement, c'est un signal d'alarme. On est prêt à distribuer 450 millions pour le Grand Palais à Paris, alors que les églises de nos campagnes sont en train de demander grâce. J'ai l'impression d'écoper un bateau qui prend l'eau de toutes parts avec une cuillère à soupe. Vous voyez, ou c'est une cause nationale, et dans ce cas-là, je sers à quelque chose, ou je ne sers à rien, et dans ce cas-là, je partirai.
Philippe Bilger.
Alors,
c'est un bateau qui prend l'eau, il ne sert à rien, Stéphane Bern, il a raison de tirer la sonnette d'alarme ?
Je ne sais pas, Stéphane Bern a toujours eu la passion du patrimoine, hein, mais la manière dont il a été choisi, un ami du président de la République, ses récriminations constantes contre tel ou tel ministre, le fait qu'il estime en permanence n'avoir pas la possibilité de remplir sa mission, maintenant la menace de la quitter, l'Élysée qui éprouve le besoin d'expliquer qu'en réalité il n'a pas été compris, tout cela, ça devient un mélange d'amateurisme, d'improvisation.
D'amateurisme de l'État ?
Oui. Absolument, mais je vais vous dire pourquoi, Pierre Neveu, parce que peut-être suis-je sévère, parce que...
C'est ce que j'allais vous dire, là, vous y allez fort. Là.
Durant la première année d'Emmanuel Macron, j'avais eu le sentiment que le pouvoir présidentiel avait démarré et poursuivi sur les chapeaux de roue en vantant l'excellence, la tenue, le professionnalisme, la rigueur, et là, ça n'est plus l'impression qui est donnée.
Luc Laventure, le patrimoine français en péril, Stéphane Bern, qui est chargé d'une mission, et il dit aujourd'hui, attention, j'ai pas les moyens, c'est...
Mais je pense qu'il a fait un coup de com' qui me paraît intéressant. Il surfe sur l'occurrence de la démission de Nicolas Hulot, c'est de bon ton, si je puis dire.
Mais il n'y a pas assez de moyens, il dit 15 à 20 millions, alors que pour le Grand Palais, on débloque 400 et quelques millions pour rénover le Grand Palais. Grand Palais qui va accueillir, et c'est pour ça qu'on le rénove, des épreuves olympiques de Paris 2024.
Je ne suis pas sûr que les choses soient comparables, parce que effectivement, le Grand Palais permet de faire des expositions exceptionnelles, extraordinaires, de recueillir des milliers, voire des millions de personnes. C'est vrai que j'aime les vieilles pierres, et les vieilles pierres qui existent...
Vous parlez de moi, là.
Non, nous ne sommes pas les chefs-d'œuvre en péril.
Ah, nous sommes pas, quel dommage.
Nous sommes pas, j'ai entendu
nous Pierre. Nous ne sommes pas encore des chefs-d'œuvre en péril.
Voilà. Bon.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, outre-mer également, il y a un déficit s'agissant des vieilles pierres. Par exemple, je prends un lieu très précis qui est le lieu de la catastrophe de la montagne Pelée en 1902 à la Martinique. Il y a plein de choses à faire. C'est dans un état de délabrement. Mais effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait...
C'est un site oublié, ça aussi?
C'est un site oublié. Et on va demander effectivement à des capitaux privés de venir au secours. Et je pense que ce que fait Stéphane Berg est intéressant. Il n'a pas réinventé le loto, puisque le loto existait déjà, pour pouvoir subvenir à ses besoins de restaurer un certain nombre de choses.
On va poursuivre ce débat dans un instant avec nos invités. Mais avant cela, à 20h10, on fait un tour de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Nouvelle journée de manifestation xénophobe en Allemagne, à Chemnitz, la troisième en une semaine dans cette ville de l'Est devenue le fief des mouvements anti-migrants depuis le meurtre d'un Allemand. Plus de 1200 policiers mobilisés pour éviter tout incident avec les contre-manifestants. La coalition arabe admet des erreurs. Trois semaines après ce raid meurtrier au Yémen visant un car transportant des enfants, 40 enfants tués, la coalition menée par l'Arabie saoudite promet des sanctions. L'impôt à la source et un nouveau recul aujourd'hui après les hésitations du président. C'est le ministre en charge de la réforme qui n'exclut pas un arrêt pur et simple, évoquant les effets psychologiques possibles si elle est mise en place au 1er janvier. Gérald Darmanin s'en remet à l'exécutif pour trancher. À deux jours de la rentrée, des trousses et des cahiers offerts aux enfants d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, l'initiative du rappeur Mac Tailleur pour qu'ils saisissent leur chance, dit-il, d'aller à l'école. 800 kits de fourniture distribués, quatrième opération pour le rappeur qui a grandi dans une cité de la ville. Et puis 4 sur 4 pour le PSG en football. Les Parisiens enchaînent les victoires. 4-2 face au promu Nîmes cet après-midi pour cette quatrième journée de Ligue 1. Une victoire, mais un carton rouge pour Mbappé exclu à la dernière minute.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Vous faites bien, Mélodie, de parler de football, car dans ces informés de France Info, on va également parler de football. Il y a des matchs qui ont commencé à 20h. Dans quelques instants, on sera en direct sur quelques stades. Mais avec vous, Hervé Kempf, rédacteur en chef du site reporter.net, je reviens sur cette menace de départ de Stéphane Bern. Comment interprétez-vous cette menace concernant cette mission du patrimoine qui lui a été confiée et le manque de moyens prévisibles?
D'une part, d'abord il le dit à un autre endroit de l'interview, Stéphane Bern, c'est qu'il joue aussi un peu le buzz, puisque le loto est lancé le lundi 3 septembre, donc c'est un bon communicant, donc il choisit son moment pour lancer une alerte. Mais sur le fond, pour ce qu'on comprend de ce qu'il veut dire, moi, il y aurait un manque de fond. Il y a un problème déjà, c'est que on se dise qu'on va financer une mission absolument essentielle par le loto, alors que ça devrait être une mission de l'État.
L'État le fait
et
déjà.
Quelque chose qui est pris collectivement en charge. Et puis la troisième chose, si on élargit le sujet au-delà des patrimoines tout à fait importants que défend Stéphane Bern, les églises, mais aussi des usines, parfois des bâtiments, des châteaux, des manoirs et des maisons tout à fait intéressantes. Si on élargit, dans le contexte de ce qui s'est passé cet été avec l'effondrement du pont de Gênes, et où on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait tout un patrimoine, alors qui est peut-être moins important, mais d'infrastructure en termes artistiques, mais qui est en termes d'infrastructure absolument fragile, qui doit être absolument restauré. Et donc là, c'est des sommes encore plus importantes que les centaines de millions qu'on a citées. Et dans le même temps, on est dans une situation où, par exemple, l'État vient de donner son feu vert pour un projet de contournement autoroutier à côté
Strasbourg.
De Strasbourg, qui va avoir un effet environnemental extrêmement important, qui va coûter de l'argent. Il donne des feux verts à Europa, un projet d'Europa City à côté de la ville de Paris qui va manger des dizaines d'hectares de terres agricoles.
Il donne engagement là sur l'écologie.
C'est pas l'engagement, c'est un constat. Ouais. C'est-à-dire, il faut être logique. On peut pas à la fois dire il faut protéger et puis construire des choses en dépensant de l'argent pour détruire par ailleurs. Donc on devrait arrêter de détruire en faisant ces autoroutes qui ne sont pas fondamentalement utiles, qui ont un impact écologique extrêmement grand, et réaffecter autrement l'argent public et l'argent privé éventuellement pour entretenir ce patrimoine
alors,
qui, soit dans le point artistique, soit en termes de routes et de ponts, est absolument essentiel à la vie quotidienne.
Ludovic Delory, directeur de la rédaction du site contrepoint.org, est-ce que vous trouvez normal que on demande aux Français de participer à un loto pour financer eh bien, la restauration de nos monuments, de nos chefs-d'œuvre en péril?
Bah oui, c'est formidable. On verra enfin si les Français sont si attachés que ça à leur patrimoine. On verra combien ce loto va
rapporter. Est-ce que les Français ont assez d'argent pour contribuer à ça?
Est-ce que les Français ont envie de donner de l'argent à la maison de Pierre Loti
à Rochefort? Très belle maison.
Très belle maison, magnifique. On peut mettre le patrimoine, si on l'aime vraiment, et si on accepte de la financer, eh bien,
mais les Français donneront. Mais il y a des entreprises qui font du mécénat,
bien
qui
sûr.
Aident, mais c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant, parce que la maison Pierre Loti compte également sur le mécénat, sur des fondations, et ça suffit pas pour l'instant. Donc, si les Français sont véritablement attachés à leur patrimoine culturel, eh bien, ils donneront. C'est pour ça que je trouve cette idée de loto, ma foi, assez originale, même si elle n'est pas neuve, mais au moins, ça pourra donner une bonne idée de l'importance que les Français portent à leur petit patrimoine culturel. Et comme le disait Monsieur Kempf tout à l'heure, il est effectivement dans ce gros budget de 475 milliards d'euros de l'État pour sauvegarder le patrimoine, il y a un patrimoine important aussi, ce sont les routes, les ponts, les viaducs et l'accident de Gênes. Et le rapport sorti le mois passé a montré qu'il y avait 7% de ces infrastructures qui nécessitaient des réparations urgentes. À voir maintenant si...
Je suis relativement pessimiste sur la passion qu'auront les Français pour le fait de subvenir aux défaillances...
15 euros le ticket de braquage. Hein, 15 euros.
D'abord, il faudrait déjà savoir qui est Pierre Loti. Et donc, la culture générale étant en chute libre, je ne vois pas au nom de quoi le Français ira verser son obol pour restaurer un patrimoine qu'il admire lorsqu'il le visite ou lorsqu'il en entend parler à la télévision, mais dont il n'est pas friand dans sa quotidienneté.
Luc Laventure.
Oui, moi je.
Après, on va faire un petit point football. Hein.
Oui, moi je pense. Je pense qu'il faut imaginer effectivement d'autres modèles. Il faut imaginer d'autres stratégies. Il y a le côté régalien de l'État. Il y a également ce que font les collectivités. Quand je regarde ce qu'a fait, par exemple, sur le patrimoine concernant l'architecture, l'habitation. Le département de la Réunion, la commune de Saint-Denis, comment ils ont restauré leurs rues, comment ils ont restauré certaines villas qui étaient délabrées. Je pense qu'il y a une implication très importante sur le plan local. C'est vrai que Pierre Loti, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, mais sur le plan local, il y a une mobilisation.
Les Charentais uniquement. Hein.
Tout
les Charentais maritimes.
Absolument.
Je peux les comprendre par certains côtés parce que je trouve que c'est un très mauvais romancier.
Ah. Bon, bah alors, vous me donnez une occasion de faire une parenthèse.
On mais passe voyez à... que je glisse.
Oui, oui, oui. C'est la quatrième journée de Ligue 1 de football cet après-midi. Paris Saint-Germain a battu Nîmes 4-2. Il y a des matchs qui ont commencé à 20h. C'est l'actualité. On fait un rapide tour des stades. Strasbourg-Nantes, Laurent Piloni, Lameno, où en est-on, s'il vous plaît?
0 partout, 17 minutes de jeu, petit match. Match cadenassé entre Strasbourgeois et Nantais. Pour l'instant, aucune occasion à vous narrer.
Charles Guyard pour la rencontre Guingamp-Toulouse.
Eh bien, à l'inverse ici, à Guingamp, les filets ont déjà tremblé à deux reprises en faveur de Toulouse. Max Alain Gradal, dès la deuxième minute, un missile dans la lucarne. Et Ibrahim Sangaré, à la deuxième minute, une reprise, une demi-volée dans les filets de Karl-Johan Johnson. Toulouse qui mène 2-0 après 17 minutes de jeu ici à Guingamp.
Bon, 0-0 sur les autres terrains. Philippe Bilger, un petit mot. Je sais que vous aimez le football. Ah, sur Paris Saint-Germain cet après-midi.
J'ai trouvé que c'était un très beau match. Un très beau but de Mbappé et qui est expulsé à la dernière minute. Ce que je
crains. Il s'est fait sécher, hein.
Oui, mais ce que je crains, c'est que ce jeune soit tellement talentueux, gagne tellement d'argent, médiatiquement est tellement célébré que sur les terrains, une forme de jalousie va probablement honteusement se développer et qu'il sera peut-être victime de coups bas.
Vous me permettez qu'on en revienne à l'actualité, à cette semaine, avec la démission du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Je vous invite à remonter dans le temps. On remonte au 2 septembre 2002. On est au sommet de la Terre, à Johannesburg. Le président de la République s'appelle Jacques Chirac. Il est à la tribune.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Hervé Kempf, rédacteur en chef du site reporter.net. Alors cette phrase, notre maison brûle, elle a été inspirée par le groupe Midnight Oil. On est en 2018, Nicolas Hulot claque la porte du ministère de l'écologie. Rien n'a changé ?
Les choses se sont aggravées, c'est-à-dire que les termes qu'a employé Jacques Chirac, qui était aussi largement inspiré par Nicolas Hulot, qui à l'époque était son conseiller et avait écrit largement son discours, ont pris encore plus de force. C'est-à-dire que on a vu maintenant la planète cet été brûler réellement, que ce soit les feux en Californie, que ce soit les feux et la température extrêmement grande en Scandinavie, les températures absolument terribles en Irak, en Algérie et ailleurs, la canicule en France et sur une large partie de l'Europe, les inondations et la mousson en Inde. Enfin, on sent que maintenant, la question de la crise écologique n'est plus quelque chose dans le futur, mais déjà entrée dans le présent. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas ce qui est dit et confirmé de plus en plus. Et toutes les alertes de cette époque, des climatologues, des spécialistes de la biodiversité, se confirment de jour en jour.
On va poursuivre ce débat consacré à l'écologie, à la démission du ministre, au remaniement attendu. Mais avant cela, à 20h20, on va poursuivre le tour de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
L'attaque au couteau dans la gare centrale d'Amsterdam hier, motivée par un mobile terroriste selon les autorités néerlandaises. L'agresseur, un jeune Afghan de 19 ans, a été entendu. Il a blessé grièvement deux Américains dans cette attaque. Barack Obama salue un homme extraordinaire, un guerrier, un homme d'État, un patriote. L'hommage de l'ancien président à John McCain, le sénateur républicain mort à 81 ans d'un cancer. Des funérailles nationales aujourd'hui sans Donald Trump. Ce n'est pas un secret, les deux hommes ne s'entendaient pas. Le président américain qui au même moment a préféré faire une partie de golf. Daniel Cohn-Bendit, plutôt réticent à l'idée de devenir ministre. Ce n'est pas ma tasse de thé, dit-il. L'ancien eurodéputé écologiste dit avoir été contacté par le gouvernement pour y entrer. Après la démission fracassante de Nicolas Hulot, le remaniement doit être dévoilé d'ici mardi. L'écologie un peu plus présente dans nos vies depuis aujourd'hui. Les pesticides tueurs d'abeilles sont interdits en France. C'est aussi la fin des ampoules halogènes trop gourmandes en consommation d'énergie. Autre changement à noter ce 1er septembre, la fin des mutuelles étudiantes. Ce qui ne change pas, c'est le rugby, le top 14. Les Parisiens prennent la tête du classement provisoire après leur victoire face à Bordeaux-Bègles 20-8. Castres s'est imposé face à Montpellier, a battu La Rochelle 36-14.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Le sport est présent dans ces informés, vous l'avez compris, samedi soir, mais on poursuit notre débat sur l'environnement, sur la démission de Nicolas Hulot. On était il y a quelques instants avec la parole de l'ancien président Jacques Chirac depuis Johannesburg, la maison brûle. Eh bien, à Johannesburg, vous avez raison de le rappeler, Nicolas Hulot était dans la délégation française. Écoutez cet extrait, le futur ministre démissionnaire ne se faisait déjà pas beaucoup d'illusions.
dans cette immense montagne qui va probablement accoucher d'une souris, deux, trois éléments positifs. Sur un plan psychologique, je pense que c'est quand même important, parce que là, les derniers doutes sont levés. Alors les solutions ne vont pas sortir d'ici, elles vont être suggérées.
Philippe Bilger, Nicolas Hulot, déjà, il se rend compte que c'est une grand-messe qui est nécessaire. On fait passer des messages, mais l'action, après, elle est dure à se mettre en place. Elle est difficile, et même lui, visiblement, il n'a pas réussi à mener à bien son combat.
Je ne voudrais pas anticiper Pierre Neveu sur mon coup de cœur qui lui sera consacré.
Ah bon, mais, à la fin de l'émission, on fait les coups de cœur.
Mais il est évident qu'il a... Après avoir surabondé dans les états d'âme, il a eu le courage de se lancer dans une vie politique pour laquelle il n'était pas structurellement fait.
Le courage ou la folie ?
Le courage, parce que... Et puis au bout d'un an, il a compris, il n'est pas Créon, il est plutôt Antigone, et qu'il s'imagine qu'on peut tout faire en étant un politique, même avec un président de la République qui avait une sympathie forte pour lui, comme les précédents. Et puis il s'aperçoit des limites, et puis c'est tout, et il part.
Alors, quand on consulte le site contrepoint.org, Ludovic Delory, on tombe sur une tribune de Michel Guay qui n'y va pas de main morte. Je le cite. Confier à des béotiens le ministère de l'écologie, secteur hautement technique et stratégique, relève d'une politique suicidaire.
Oui, on a vu Ségolène Royal inaugurer des routes solaires il y a quelques années, qui se sont avérées être un flop. Si c'est être ministre de l'écologie pour se montrer devant les caméras de télévision, si c'est pour planter des énergies intermittentes dans les campagnes alors que la maison brûle partout ailleurs dans le monde, alors que 1,4 milliard aujourd'hui de personnes dans le monde vivent sans énergie, alors qu'en Afrique, alors qu'en Inde, 500 000 personnes se chauffent à la boue, à la bouse de vache. On va pas leur envoyer des éoliennes, on va pas leur financer des panneaux solaires. Je pense que il faut davantage faire confiance à tous les ingénieurs, aux millions d'ingénieurs qui, de par le monde, travaillent au futur des centrales nucléaires. Je pense qu'il faut faire confiance aux ONG qui sont sur le terrain pour sortir ces gens de la misère et pour leur offrir un minimum de décence, pour leur offrir le minimum vital, c'est-à-dire de l'électricité, de l'énergie pour se déplacer. Et je ne suis pas sûr que ces gens qui forment quasiment 20% de la population mondiale est aujourd'hui besoin de routes solaires. Je pense que leurs besoins, ce sont des centrales au gaz, dans un premier temps, des centrales qui fonctionnent toujours à l'énergie fossile, des centrales nucléaires, pourquoi pas. Aujourd'hui, la Chine
sur votre site contrepoint.org, ce même Michel Guay dénonce, je le cite, les bons lobbies des ONG et associations qui font pression sur l'État pour qu'il s'engage dans de ruineux et inutiles programmes aux effets incertains, voire franchement néfastes, sur le niveau de vie des Français.
Aujourd'hui, la précarité énergétique concerne 2 à 5 millions de foyers en France. Le coût des énergies intermittentes augmente la facture d'électricité. C'est pas seulement le cas en France, c'est également le cas en Allemagne, en Belgique. La fermeture des centrales nucléaires en Allemagne a augmenté considérablement le prix de l'énergie. Et le prix de l'énergie, c'est le minimum vital pour beaucoup de foyers. Des foyers qui ont besoin de se chauffer d'électricité et d'énergie. Voilà, il est là le problème. Je pense qu'il y a un hiatus énorme entre
le message
entre
et la réalité.
Le ministère de l'écologie qui pense vert, qui pense. Pour moi, c'est un luxe de riches encore de financer.
Je veux vous écouter, Hervé Kempf, rédacteur en chef du site reporter.net. Je suppose que
il faut savoir de quoi on parle. Si on parle de politique énergétique ou si on parle de la situation politique créée par la position et l'acte de Monsieur Hulot. Donc, c'est deux débats différents. Donc, je ne vais pas rentrer immédiatement dans ce que vous avez dit. Sinon, par exemple, pour dire qu'une des raisons pour lesquelles Nicolas Hulot a quitté son poste, il l'a dit explicitement le 28 août, c'est que, par exemple, le programme de lutte contre la précarité énergétique n'était pas financé comme il le devrait. Donc avant même de penser, et précisément si on pense aux personnes les plus pauvres en France, et un ministre de l'écologie en France s'occupe d'abord de l'écologie française avant de s'occuper de l'Afrique, eh bien c'est de voir comment on peut économiser l'énergie en réduisant les coûts. Et de ce point de vue-là, le programme de prêt contre la précarité énergétique était absolument essentiel. Et précisément, Monsieur Hulot a dit « je n'ai pas eu les moyens de le financer ». Plus largement, qu'est-ce qu'il est en cause ? Je lirai ce texte de Monsieur Guay, mais il ne faut pas avoir une analyse technique, il faut avoir une analyse politique. C'est ça qui se joue dans le cas de Monsieur Hulot. L'enjeu n'était pas sa compétence, l'enjeu était est-ce qu'il était compatible de faire une politique écologique avec un gouvernement qui est néolibéral ? Pour le dire clairement, c'est ça la question qui est opposée. Monsieur Hulot est arrivé à la conclusion, et le dit explicitement, On ne peut pas faire à la fois une économie de marché généralisée et une politique écologique. C'est ce choc de politique qui s'est révélé là, et c'est ça l'enseignement politique que l'on peut tirer de ce départ.
Alors, on va continuer à parler de cette démission, de la politique environnementale du président, du gouvernement. Dans un instant, on va également parler, dans la deuxième partie des informés de France Info, du retour de l'omniprésence dans les médias, dans les librairies de François Hollande. On va parler également de la Nouvelle-Calédonie. Vous nous donnerez en fin d'émission vos coups de cœur. C'est important. On fera un point également sur les matchs de football. Restez avec nous sur France Info, radio, télévision, Canal 27. De la TNT. Tout de suite, la météo et l'info. On se retrouve dans un instant.
Bon, maman, la voiture électrique, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Quand je serai sûre qu'on peut aller loin avec.
Mais t'inquiète pas, il y a plus de 25 000 bornes de recharge en France.
Ah oui? Et j'en veux une très design.
Ça tombe bien, la BMW i3 est trop stylée. Et c'est là au moins.
Ok ma chérie, on file chez BMW i.
BMW i3 plus connected avec charge rapide pour récupérer jusqu'à 160 km d'autonomie en 40 minutes. À partir de 295 € par mois sans apport. Loyer pour une BMW i3 sous condition de reprise, bonus écologique inclus. LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 septembre. Détails sur bmw.fr.
Réagissez à l'actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag France Info. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
On regarde la carte du ciel tout de suite avec vous Jean-Michel Golinski, Météo France.
Pas de changement notable demain dans les conditions météorologiques avec la persistance d'un horizon bien bleu sur une très grande partie du pays. Les nuages bas des premières heures, en particulier sur le nord de la Bretagne, ne vont pas résister très longtemps. Par contre, comme aujourd'hui, c'est sur les régions les plus à l'est que l'on va trouver le ciel le plus mitigé. Possiblement accompagné de pluie l'après-midi près de l'Allemagne et d'averses orageuses entre les Alpes frontalières et la Corse. Les températures nocturnes, souvent sous la barre des 10 degrés entre le nord, le centre et le nord-est, vont en cours de journée afficher environ 2 degrés en moyenne de plus qu'aujourd'hui, mettant ainsi la barre des maximales aux environs de 22 près de la Manche, de 30 du sud-ouest à la Méditerranée et de 26 en moyenne sur les autres régions.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
Les informés de France Info reprennent dans 3 minutes, il est précisément 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info, c'est avec Emmanuel Langlois.
Bonsoir. L'exécutif toujours hésitant sur la mise en place de l'impôt à la source. Interrogé tout à l'heure sur France Inter, Gérald Darmanin a admis que l'arrêt du projet n'était pas exclu. Le ministre des Comptes publics évoque les potentiels effets psychologiques de la réforme censée entrer en vigueur au début de l'an prochain. Emmanuel Macron devrait prendre sa décision d'ici 2 semaines. Les défenseurs des abeilles s'impatientaient. Les agriculteurs, eux, ne décolèrent pas. L'utilisation des néonicotinoïdes pour débarrasser les plantes des insectes ravageurs est désormais interdite en France, à part quelques exceptions. À l'étranger, les suites de l'attaque au couteau d'hier à la gare centrale d'Amsterdam aux Pays-Bas. Les 2 blessés graves sont des citoyens américains. L'assaillant présumé, blessé, arrêté par la police, est un jeune Afghan. Les autorités n'écartent pas ce soir l'hypothèse d'un acte terroriste. Aux États-Unis, Barack Obama et George Bush côte à côte à la cathédrale de Washington pour les funérailles national de John McCain, héros américain de la guerre du Vietnam. C'était le point d'orgue d'une semaine d'hommage que Donald Trump a ostensiblement ignoré, puisqu'il a préféré aujourd'hui, lors de la cérémonie, aller jouer au golf. Xavier Thévenard remporte pour la 3e fois l'Ultra Trail du Mont Blanc après 2013 et 2015. Le Jurassien a enlevé cette épreuve légendaire en un peu plus de 20 heures devant un Roumain très discret sur le circuit. Thévenard, qui fait désormais partie du club très restreint des triples vainqueurs de l'UTMB, avec le Français François Daen et l'Espagnol Kylian Jornet. Xavier Thévenard qui pouvait savourer à l'arrivée.
Faire un bel UTMB propre, avec une belle gestion, un beau rythme, une bonne nutrition, c'est ce que je suis parvenu à faire, donc l'objectif est rempli. Je suis resté vraiment dans mon rythme et puis concentré sur mes allures. plutôt de me dire que j'ai rattrapé Kylian ou rattrapé Jim. De toute façon, j'allais pas partir avec Jim et Kylian, ils sont bien trop forts pour moi. L'année dernière, c'est ce que j'ai fait comme connerie, je suis parti un peu avec eux et puis j'ai pas leur vitesse, donc je me suis raisonné et puis je me suis dit de toute façon, il faut pas que je cherche à les suivre, il faut que je fasse ma gestion à moi, celle qui me correspond, et derrière, si je fais avec la manière, le résultat, il suit souvent. C'est bon, je suis satisfait de la saison.
Le Français Xavier Thévenard, vainqueur de l'UTMB. Quant à Kylian Jornet, grand favori, donc, il a été mis hors jeu en raison d'une piqûre d'abeille juste avant la course qui a provoqué chez lui une allergie. Jim Wamsley, américain, autre grand favori, a également été lâché. Il est 20h33 sur France Info. Voici les informés. La suite.
Les informés. Pierre Neveu.
La deuxième partie des informés sur France Info, la radio, France Info, le canal 27 de la TNT, sur les réseaux sociaux. On va poursuivre ce tour d'actualité également sportive. Hein. Il y a du football ce soir avec autour de cette table Luc Laventure, le président du site d'information Outre-mer 360, avec le rédacteur en chef du site reporter.net, Hervé Kempf, avec le président, j'aime bien vous appeler président, de l'Institut de la parole.
Ça fait tout plaisir à un Français.
Philippe Bilger est avec le directeur de la rédaction du site contrepoint.org, Ludovic Delory. Alors, comme je vous le disais, c'est la quatrième journée de Ligue 1 de football. Des matchs ont commencé à 20h. On fait un rapide tour des stades avec d'abord Laurent Piloni à la Méno pour le match Strasbourg-Nantes. Le score?
Oui, 1-0 pour les Strasbourgeois et la Méno s'est enflammée à la 21e sur un superbe but de la tête signé Ajor. Quelle égalisation à l'instant sur cette frappe contrée côté nantais. Je vais vous donner le buteur tout à l'heure, un partout donc. But de Ajor pour Strasbourg et à l'instant même, égalisation nantaise. On va revoir tout cela plus calmement. Donc inscrite à l'instant, un but partout entre Strasbourg et Nantes, 34 minutes de jeu.
Et quand on mène sur la pelouse de Dijon, un but à 0, 0-0 entre Angers et Lille, 0-0 pour l'instant entre Reims et Montpellier. On file à Guingamp, Roudourou, Guingamp qui reçoit Toulouse, Charles Guillard.
Et qui reçoit bien puisqu'il lui déroule le tapis rouge. Il fallait pas arriver en retard comme le veut la formule. Dès la deuxième minute, Max Alain Gradel pour Toulouse a dégelé le tableau d'affichage. Il a été imité à la 12e minute par Ibrahim Sangaré. 2-0 pour le TFC. On joue depuis bientôt 35 minutes de jeu. À noter que Toulouse évolue à 10 depuis l'expulsion de Jean-Claire Todibo, le jeune défenseur expulsé après deux avertissements reçus.
Et l'on rappelle cet après-midi que Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse de Nîmes 4-2. On revient sur cette démission, sur ce changement attendu de tête au ministère de l'écologie. On abordait la question économique. On va revenir avec vous, Hervé Kempf, rédacteur en chef du site reporter.net, sur le cahier des charges, ce qui attend le prochain ministre sur toutes ces impossibilités, on peut le dire. Je me souviens de Michel Crépeau, ministre émergé du temps de François Hollande, qui m'avait dit, le ministère de l'écologie, de l'environnement, je suis le ministre, le poil à gratter de tous les ministères, parce qu'il faut discuter avec Bercy, il faut batailler avec Bercy, il faut s'occuper des transports, du nucléaire, de l'agriculture. On n'est jamais d'accord, on n'y arrive jamais. C'est le problème de Nicolas Hulot.
On n'y arrive jamais parce que, une fois de plus, c'est une politique qui est orientée vers la poursuite du productivisme, vers la recherche de la croissance à plein tube. Voilà, on est toujours dans cette logique. Malheureusement, on ne peut pas allier les deux. Une fois de plus, je suis désolé, mais toutes les études scientifiques montrent que il y a une dégradation continue de la biosphère qui se fait, et que par ailleurs, des économistes comme Gaël Giraud et comme bien d'autres expliquent très clairement que la croissance dans son système actuel est incompatible avec le respect de l'environnement. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut transformer les choses, et donc ça implique non seulement un acte du côté du ministère de l'écologie, mais une logique générale de changement des choix politiques.
Luc Laventure.
Ce sont des chocs de culture, ce sont des chocs de logique. Effectivement, on a une économie productiviste, et puis il y a une façon de voir le temps qui n'est pas la même. Crépeau, quand il disait effectivement, je suis le poil à gratter de tous les ministres. Oui. C'est-à-dire que la logique de l'écologie n'est pas la même que la logique économique, j'allais dire primaire. À tel point que on arrive à un problème de civilisation. Regardez le Nord qui dépouille le Sud pour pouvoir faire en sorte que le Nord soit de plus en plus productiviste par rapport au Sud. Et on s'aperçoit que on entre dans une question de temps long et de temps court. Regardez les anciens. Je parle pas des ancêtres, je parle des fondateurs des religions. Ils avaient déjà introduit l'écologie dans leur système de pensée. Mais on a un système qui est global, que ça soit dans les religions monothéistes ou dans les religions hindouistes, africaines, etc., qui fait que on aborde l'homme dans sa globalité, dans l'univers, et non pas comment faire en sorte que je sois dans un bien-vivre, dans un bien-être très court, à très très court terme, ce qui provoque effectivement des explosions permanentes.
Vous voulez dire, lorsque le monde est un peu Dieu, on le respecte.
Tout à fait. Mais regardez par exemple l'histoire, bon, les écologistes pour lesquels j'ai une sympathie naturelle, ils ont inventé comment protéger les forêts, comment protéger les animaux. Quand on va en Afrique, qu'on va vers les forêts sacrées, qu'on le retrouve d'ailleurs en Bretagne, les forêts sacrées, qu'est-ce que c'est? C'est une codification qui permet effectivement de respecter le temps long et de respecter la matrice, la mère Dieu.
Alors là, vous avez élevé le débat.
Et la... Oui, tout à fait.
Vous avez élevé le débat. Je ne m'attendais pas à ce que vous ameniez le débat sur la question religieuse, mais vous avez entièrement raison.
Avec
mais
une inquiétude, si je peux me permettre très rapidement, c'est que justement, les échéances deviennent très courtes. C'est
oui,
que
tout à
la
fait.
Question écologique n'est plus dans le temps long, mais que c'est dans
maison.
Les 10 ans, si on raisonne par rapport au changement climatique, c'est effectivement dans les 10 ans, ou les 15 ans, ou les 5 ans même, disent certains, qu'il faut vraiment changer la courbe d'émissions des gaz à effet de serre si on veut pas, par exemple, dépasser 2 degrés de Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle qui entraînerait des conséquences dramatiques.
Mais Ludovic Delory va nous dire il y a besoin de faire tourner une économie, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de croissance, et comment concilier les deux?
Moi, je pense qu'il y a un lien avéré entre le développement du progrès économique et la qualité de l'environnement. Un rapport sorti
pouvons-nous
il y a
faire,
peu,
c'est ça,
un rapport sorti il y a peu a démontré que le pays le plus soucieux de son environnement dans le monde, c'était la Suisse, le pays le plus libéral d'Europe. La France est dans le top 3 grâce à ses centrales nucléaires qui ne produisent pas de CO2, grâce au développement aussi de ses infrastructures. Les pays européens,
vu que M. Bruno Le Maire veut davantage
de centrales nucléaires. Il y en a 6 dans les cartons. Oui, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a
Monsieur
raison.
Nicolas
les centrales
Hulot,
nucléaires ne produisent pas de CO2. Mais alors, on peut faire de la décroissance en France, comme on peut en faire au Venezuela, comme on peut en faire dans tous les pays qui ont complètement écroulé et effondré leur économie. Alors dans ces cas-là, il n'y a plus d'argent pour investir dans des énergies, qu'elles soient fossiles ou propres. Il n'y a plus moyen d'investir dans des infrastructures, il n'y a plus moyen d'entretenir les routes. Et dans ce cas-là, évidemment, si l'économie s'effondre, forcément, l'intérêt pour la nature s'effondre également, puisque la préoccupation première des gens, dans ces pays-là, vous le voyez bien au Venezuela, c'est de manger. Au quotidien.
On va parler politique cette semaine. C'était même hier, me semble-t-il. François Hollande est revenu sur la scène politique et il a dit déjà qu'il n'avait pas quitté la scène politique. Il a ciblé ses critiques contre son ancien collaborateur, son ancien ministre aujourd'hui, président de la République, Emmanuel Macron. Mais avant cela, à 20h40, l'essentiel de l'actualité, c'est avec vous, Mélodie Pépin.
L'abandon pur et simple de l'impôt à la source n'est plus exclu. Cette fois, c'est le ministre en charge de la réforme, Gérald Darmanin, qui l'évoque dans le journal du dimanche. Il s'en remet au président et au premier ministre pour trancher. Le gouvernement s'est donné 15 jours pour lever les doutes. Un torero grièvement blessé par un taureau aujourd'hui lors d'une corrida dans les arènes de Bayonne. La bête de 520 kilos a encorné le jeune homme de 28 ans originaire d'Arles. Il a été opéré en urgence. L'auteur de l'attaque au couteau à Amsterdam hier avait une motivation terroriste. Voilà ce qu'indiquent les autorités de la ville dans un communiqué. Le jeune Afghan a grièvement blessé au couteau 2 Américains. Un atterrissage raté en Russie. 18 blessés, un Boeing 737 a glissé dans une rivière avant de prendre feu. En arrivant à Sochi la nuit dernière, il y avait 166 passagers à bord. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de cet incident. Et puis 20h44 d'efforts intenses. Xavier Thévenard a remporté l'Ultra Trail du Mont Blanc cet après-midi à Chamonix. 170 km de course et pratiquement 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est sa 3e victoire dans cette course de l'extrême.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Et dans ces informés de France Info, on va continuer à parler de cette rentrée délicate du président Macron après des vacances difficiles. Rentrée délicate, on l'a vu avec Nicolas Hulot, avec Stéphane Bern. Et puis dans la chaussure du président, il y a un caillou qui prend de plus en plus de la place. Il s'appelle François Hollande. L'ancien président poursuit son tour de France des libres et puis en même temps des rédactions. Il était hier à Cherbourg, l'ancien fief politique de son ancien ministre Bernard Cazeneuve. François Hollande qui en a profité pour donner des leçons de pouvoir à son jeune successeur et ancien ministre sans jamais le nommer.
Ce qui est plus difficile à vivre, ce sont les comportements personnels. Des comportements personnels, il peut y en avoir de formidables, de magnifiques, dès lors qu'ils supposent de l'engagement, du désintérêt, de l'abnégation et du sens du collectif. Il y en a d'autres qui sont animés, parce que c'est l'air du temps, j'imagine, par l'individualisme, le cynisme, ou parfois, ça peut survenir, le narcissisme.
Philippe Bigère, individualisme, narcissisme, etc., sans jamais citer le nom, la rancune est tenace.
Oui, il faut bien voir que même s'il fait de l'humour en disant qu'il n'a pas été battu puisqu'il ne s'est pas présenté, et que, évidemment, il estime avoir été trahi par Emmanuel Macron, je crois que François Hollande
a
en travers de la gorge le fait de n'avoir pas pu se représenter puisqu'il affirme, il a affirmé qu'il aurait battu Emmanuel Macron. Donc, il n'a en travers de la gorge une campagne présidentielle qu'il aurait probablement perdu et il ne cesse de la rejouer depuis. Par ailleurs, il veut venger clairement d'Emmanuel Macron. Une fois qu'on a dit cela et que, à titre personnel, j'ai considéré surtout qu'il ne revienne pas, je ne ferai pas comme tant de gens en le traitant avec dérision. Tout arrive en politique et l'état de la gauche aujourd'hui, qui ne s'améliorera guère dans les prochains mois, laisse penser que peut-être une bête politique comme lui, en dépit du désaveu d'aujourd'hui, eh bien il ne faut jamais insulter l'avenir, même s'il est socialiste.
Luc Laventure, il a un boulevard devant lui, François Hollande, il devient le premier opposant parce que Jean-Luc Mélenchon a essayé, mais...
Je partage...
Ne pas insulter l'avenir.
Absolument, ne pas insulter l'avenir. D'abord, effectivement, il a en travers de la gorge le fait qu'il il le ressent comme une trahison. Une trahison, c'est-à-dire une arrivée par effraction, ce que Emmanuel Macron qualifie d'ailleurs sa prise de pouvoir. Il a en travers de la gorge, mais je pense, alors je ne dirais pas qu'il a déserté le champ de bataille en ne se présentant pas, mais quelque part, je ne vois pas comment il pourrait refaire le match, sinon dans son imaginaire. Mais moi non plus, je suis parfaitement d'accord et je partage ce sentiment. N'insultons pas l'avenir, en politique, on n'est jamais mort.
Ludovic Delors, on a vu que Valéry Giscard d'Estaing a essayé de revenir. On a vu que
Nicolas Sarkozy
a essayé de revenir. Est-ce vraiment, il a vraiment sa chance?
C'est la professionnalisation de la vie politique. François Hollande fait ce qu'il a toujours fait, ce qu'il a toujours pu faire, ce qu'il a toujours été en mesure de faire tout au long de sa vie. Faire de la politique.
Même s'il est de l'ancien monde.
Faire campagne. Mais vous savez, je me mets à sa place, haut fonctionnaire, énarque, et puis président de la République à 63 ans. On peut imaginer que le gouffre s'est peut-être ouvert devant lui. Je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qui se passe. Alors probablement qu'il va recommencer ce qu'il a toujours fait, avec talent d'ailleurs, faire campagne, la tournée des librairies, et puis lancer des petites phrases assassines à l'attention de ceux qui, par le passé, ont pu entraver sa nouvelle marche vers le pouvoir. C'est un professionnel de la politique comme d'autres, et je pense qu'il n'arrêtera pas, il continue à faire campagne avec
et puis,
l'argent.
Sans exagérer l'ironie dont que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est vrai que sa situation est un peu différente de celle de Valéry Giscard d'Estaing et de Nicolas Sarkozy, tout de même un petit peu. Il a été obligé, pensait-il, de ne pas se représenter. Il peut jouer sur l'aspect psychologique qu'au fond, il n'a pas été rejeté, même si le sentiment français profond de la France, à l'époque, l'aurait officiellement rejeté.
Luc Laventure, je me retourne vers vous. Vous portez la voix de l'outre-mer sur ce plateau. Moi, j'ai envie qu'on parle souvent, plus souvent, de l'outre-mer sur les antennes. Cette rentrée politique, elle va être particulièrement importante puisque dans 2 mois, le 4 novembre prochain, il y a un référendum en Nouvelle-Calédonie. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la question qui va être posée. 175 000 électeurs. Est-ce que ce référendum, c'est la suite logique des accords de Matignon, est-ce que ça va véritablement changer quelque chose?
Ça fait, je pense qu'au cours des dernières décennies, les choses ont évolué. Premier acte fondateur, juin 88.
88.
Ça s'appelle les accords Matignon, avec deux figures importantes, Tjibaou et Jacques Lafleur. C'était inimaginable. Les deux hommes qui sont quand même Caïn et Abel, si je puis dire, sont arrivés à se dire bonjour, à se serrer la main et à partir de là, à construire un pays nouveau. Deuxième acte important, on a renouvelé cet accord en 98 avec ce qu'on appelle les accords Nouméa. Et depuis, tout le monde se dit, mais ce pays va vers l'indépendance. Notre confrère, la Dépêche de Nouvelle-Calédonie, a sorti les résultats d'un sondage oui, important, réalisé d'ailleurs par l'Institut Quid Novi à propos de cette consultation du 4 novembre. On s'aperçoit qu'il y a entre 69 et 75% des gens qui sont décidés à voter non. C'est-à-dire non à l'indépendance. C'est-à-dire que les tendances s'accentuent. Et les gens qui ne veulent pas voter, le nombre de gens, le pourcentage de gens qui ne veulent pas voter diminue. C'est-à-dire que les choses avancent. Alors, je ne vais pas porter de jugement dans le bon sens, dans le mauvais sens, etc. Mais ça veut dire qu'il y a une façon de construire un pays qui n'est pas la même qu'il y a 30 ans.
Hervé Kempf, reporter.net, la Nouvelle-Calédonie, il y a des enjeux environnementaux, écologiques très importants. Il y a la barrière de corail, il y a de superbes lagons, il y a de superbes montagnes, mais aussi il y a une richesse financière extrême avec sa pollution, ce sont les mines de nickel.
Et qui sont se sont développés à un coût écologique extrêmement important, puisque la Nouvelle-Calédonie est une espèce d'anomalie géologique. Il y a sur presque un tiers du territoire des affleurements géologiques qui comportent notamment du nickel, du cobalt et d'autres matériaux.
On va dire préemptés par la Chine, très intéressés par...
Oui, mais qui ont été exploités depuis des dizaines d'années, et vous le savez sans doute mieux que moi, je découvre un petit peu le sujet en ayant travaillé, mais qui ont été exploités pendant des dizaines d'années par, ce qu'il faut bien appeler, des puissances coloniales, en l'occurrence la France et les entreprises qui lui étaient liées, ou la métropole, pour parler plus exactement, et par ailleurs à un coût environnemental extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'hectares qui ont été complètement décapés, qui sont à nu, alors que c'est un lieu d'une biodiversité exceptionnelle. Et puis juste un mot aussi, on a publié sur Reporter un reportage sur des habitants d'Ouvéa, et les habitants d'Ouvéa commencent à voir aussi la montée du niveau des mers, ce qui fait qu'un certain nombre de villages doivent déjà se préparer à migrer. Ce sont les premier migrant climatique en France.
Luc Lavantois.
Tout à fait d'accord. Un petit bémol sur la puissance coloniale, dans la mesure où effectivement les Kanaks s'impliquent beaucoup dans cette affaire. D'ailleurs, par leur résistance, entre guillemets, ils ont fait arrêter l'exploitation possible de 3 nouvelles mines en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que ça représente un pactole, si je puis dire, très important. La Nouvelle-Calédonie est quand même la 6e puissance exportatrice vers la Chine, vers le Japon, etc. Mais je pense qu'effectivement, cette prise de conscience globale est importante. La preuve, c'est que sur ces 3 mines, ces 3 gisements, il y a eu un permis d'exploitation qui a été donné et qui a été retiré hier.
On va reparler assez souvent de la Nouvelle-Calédonie, le référendum approche. Mais on va faire un point sur le football dans un instant. Et puis on attend vos coups de cœur, la fin de l'émission approche. Mais avant cela, à 21h, à 20h51, l'info avec vous, Mélodie Pépin.
L'Amérique de John McCain n'a pas besoin de retrouver sa grandeur. La fille du sénateur républicain tacle Donald Trump lors des funérailles nationales de son père. Donald Trump qui s'est fait remarquer par son absence. Présents Barack Obama et George W. Bush, ils ont salué un homme qui a fait d'eux de meilleurs présidents. Les anti-migrants, une nouvelle fois rassemblés à Chemnitz en Allemagne. 3e manifestation en une semaine dans cette ville qui cristallise les tensions depuis que 2 réfugiés sont soupçonnés d'avoir tué un Allemand. Au même moment, les pro-migrants organisent une contre-manifestation. Aucun incident à déplorer pour l'instant. Être ministre, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà ce que dit Daniel Cohn-Bendit, l'ancien député écologiste européen, a été approché, dit-il, pour peut-être remplacer Nicolas Hulot. En attendant, le prochain ministre de l'écologie, on le saura d'ici mardi, le gouvernement patauge avec l'impôt à la source. Ardent défenseur de la mesure, Gérald Darmanin n'exclut pas désormais un arrêt. Le ministre en charge de sa mise en œuvre se range derrière le président qui a fait part de ses doutes cette semaine. Rendre du pouvoir d'achat tout en protégeant l'environnement, le pari de la ville de Dunkerque. Depuis aujourd'hui, les 200 000 habitants de l'agglo circulent en bus sans payer. C'est la plus grande agglomération de France à mettre en place la gratuité des transports pour tous.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Avant d'écouter vos coups de cœur, l'actualité c'est aussi le football. Des matchs ont commencé à 20h, quatrième journée de Ligue 1, on fait un point parce que c'est la mi-temps sur les terrains, notamment Guingamp-Toulouse, Charles Guyard, la mi-temps.
Ouais, une première, effectivement, c'est la pause, une première période qui s'est conclue par la réduction du score de Guingamp après une nette domination dans le dernier quart d'heure. En l'occurrence, c'est Marcus Thuram à la réception d'un corner de Benezé qui a redonné de l'espoir au camp breton, qui a encaissé quand même deux buts avant cela à la deuxième minute. Max-Alain Gradel et à la douzième, Ibrahim Sangaré avait porté la marque à 2-0 pour Toulouse. Il y a désormais deux buts à un, toujours pour le TFC. C'est la pause à Roudrou.
Quand on mène sur la pelouse de Dijon, un but à 0, 0-0 entre Angers et Toulouse. La rencontre Strasbourg-Nantes, Laurent Piloni.
2-1 pour les Nantais, retournement de situation. Strasbourg avait ouvert le score par Laurent Ajorque à la 21e, égalisation de Mitrovic pour les Nantais contre son camp, 33e. Et puis les Nantais ont enfoncé le clou sur un contre rapidement mené côté gauche. Ensuite, on a basculé le jeu côté droit et Evangelista a frappé. Une superbe frappe en rupture et enroulée a battu le gardien alsacien. 2-1 pour Nantes, c'est la pause.
Alors, dans ces informés de France Info, l'émission se termine. On a parlé d'une actualité politique sérieuse. J'ai envie de terminer cette émission sur, non pas des coups de gueule, ça on le fait fréquemment sur les antennes, mais vos coups de cœur. Tiens, Ludovic Delory, directeur de la rédaction du site contrepoint.org. On termine sur une note positive. Coup de cœur, ce qui vous plaît, l'actualité littéraire, musicale, cinématographique, télévisée, ce que vous voulez.
On vient de sortir du football, moi je voulais vous parler un peu de tennis avec un coup de cœur pour Serena Williams qui ne s'est pas laissé compter suite à la polémique suscitée à sa présence à Roland-Garros, cette tenue en lycra qu'elle porte. Essentiellement d'abord pour des raisons médicales, c'est la plus grande joueuse du monde aujourd'hui, elle a 23 titres de Grand Chelem, elle a donné naissance à une fille l'année passée. Elle est courageuse. Elle a répondu avec humour, avec intelligence, je pense, en portant un tutu sur le court de l'US Open. Réponse intelligente au président de la Fédération française de tennis qui s'était insurgé qu'elle porte cette tenue assez moulante lors de Roland-Garros. Et en plus, elle gagne puisqu'elle vient de battre sa sœur et de se qualifier pour le quatrième tour de l'US Open.
De l'US Open qui continue. Philippe Bilger.
Moi, je voudrais revenir vers Nicolas Hulot parce qu'à une époque où la morale publique est en déliquescence, je pense à l'affaire Nissen, je pense à l'incident, si j'ose dire, Philippe Besson. J'aime bien qu'un ministre qui peut par ailleurs être discuté pour son bilan ait donné une leçon d'exigence et de responsabilité politique. Je ne me moque pas de lui, il a peut-être décidé cela dans des conditions un peu rocambolesques, mais il peut donner une leçon à certains qui s'accrochent à leur poste alors qu'ils devraient le quitter.
Hervé Kempf, rédacteur en chef du site Reporter.net, Reporter, R-E-P-O-R-T-E-2-R-E, hein, je précise bien.
Oui, avec deux petits coups de cœur. Un en défense de Pierre Loti, si c'est possible. Je pense à un très beau livre de Pierre Loti qui s'appelle Désert, qui est un voyage à travers le Sinaï et où, sur 200 pages, on pourrait dire le désert, c'est des pierres, il n'y a rien à raconter. Et il a une telle puissance d'observation, d'écriture, qu'il décrit ces 100 ou 200 kilomètres avec chaque moment il se passe quelque chose. C'est magnifique à lire. Lisez-le. Et puis si je peux me permettre pour l'actualité de cette semaine, c'est la fin du changement d'heure qui est enfin annoncé par la Commission européenne. Alors en soi, c'est une très bonne nouvelle pour les petits et les gens parce qu'on va se débarrasser, espérons-le, de ces deux changements d'heure totalement absurdes qui, sur le plan en plus environnemental, n'ont qu'un effet absolument désastreux. Et puis, dans la vie quotidienne, sont très gênants pour les enfants, pour les vieilles personnes, pour tout le monde. Et ça s'est fait aussi par le biais d'une consultation publique où plus de 4 millions de personnes, d'Européens, se sont manifestés et ont dit non, on n'en veut pas. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle.
Luc Laventure, votre coup de cœur.
Alors, je ne vais pas être flagorneur, mais juste saluer France Info et son deuxième, le deuxième anniversaire de sa rédaction. C'est important. Pourquoi je dis ça?
Parce média que global, radio, télévision,
absolument.
Internet.
C'est-à-dire voilà. que nous avons, enfin, pas vous, mais moi, j'ai traversé quand même plusieurs décennies concernant l'audiovisuel, et je m'aperçois que même avec un matériel ancien, on fait du nouveau. On fait du nouveau de façon intéressante en mariant à la fois le digital, en mariant tous les supports et faire en sorte que effectivement le rythme reste. On s'en sert sur le plan de la charte graphique. On s'en sert sur le plan. Ça donne des idées à des jeunes. Je suis en train de travailler en ce moment avec sur une petite chaîne qui s'appelle Indies Live et effectivement même sur la façon de traiter la musique. On s'inspire de France Info.
Un grand merci à vous, un grand merci pour ce coup de chapeau. Je remercie nos débatteurs. Luc Laventure, on consulte votre site Outre-mer au pluriel 360. Hervé Kempf, on consulte votre site reporter TE2RE.net. Philippe Bilger, toujours président à vie de l'Institut de la Parole.
Je me suis informé.
Voilà. Et merci à vous également, Ludovic Delory du site contrepoint au pluriel.org. À la réalisation ce soir, Thomas Eliès, à l'édition Louis Mondeau, à suivre la météo et l'info. Je vous retrouve demain pour les informer entre 20h et 21h. Bonne soirée.